la radio de la Fédération anarchiste.
Bonjour à toutes et à tous. Suite de l'entretien avec Daniel Dallaguarda aujourd'hui.
La Radio Libertaire 89.5.
Oui.
Je te donne les fleurs à inventer, les jouets d'une comète, les raisons d'être fou, la folie dans ta tête. Des avions à l'aller vers tes désirs perdus, et moi, comme un radar à leurs ailes pendues, des embruns dans tes yeux et la mer dans ton ventre, un ordre dans ta voix chaque fois que je rentre, des chagrins en couleur riant à ton chevet, les lampes de mes yeux pour mieux les parfum de la nuit, quand ils montent d'Espagne, les accessoires du dimanche sous ton pagne, les larmes de la joie quand elle est à genoux, le rire du soleil quand le soleil s'en fout, les souvenirs de ceux qui n'ont plus de mémoire, l'avenir en pilule, toi et moi pour y croire, des passeports pour t'en aller, d'Einsteinisé vers cet univers blanc qui meurt à nos idées. Des automates te parlent de mes problèmes et cette clé à remonter qui dit je t'aime, un jardin dans ton cœur avec un jardinier qui va chez mon fleuriste et t'invite à dîner, des comptes indécis chez ton marchand de rêves, un sablier à ton poignet, des murs qui lèvent, des chagrins bras des mains pour t'enchaîner à moi, des armes sur rêve pour me tuer sans froid. Cette chose qu'on pense être le feu de Dieu, cette mer qui remonte au pied de ton vacarme, ces portes de l'enfer devant quoi tu désarmes, ces serments de la nuit qui peuplent nos aveux, et cette joie qui fout le camp de ton collant, ces silences perdus au bout d'une parole et ses ailes cassées chaque fois qu'on s'envole, ce temps qui ne tient plus qu'à trois heures.
Je te donne tout ça.
Je te donne tout ça.
Alors la découverte de l'œuvre de Léo, elle se fait donc à peu près en 1900, enfin tu connaissais avant, mais disons que l'immersion dans l'œuvre de Léo, elle s'opère au moment où tu entends Le Chien, et puis dans la succession de ses albums qui vont paraître dans les années 70. Oui. La solitude que tu entends dans des conditions très particulières quand même, c'est assez sympa.
Oui.
De l'entendre avec l'auteur avant même sa sortie, bon, voilà, et puis d'être surtout avec Léo, quoi, c'est quand même, c'est un sacré souvenir. Et puis avec l'album, il n'y a plus rien et qui donc va continuer. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu à ton rapport à l'œuvre de Léo. Est-ce que, j'imagine que donc c'est vraiment la période qui va être la plus chère à ton cœur, cette période de création.
Ouais. Sans aucun doute. Bon, les spécialistes et les esthètes ne veulent pas parler de période, mais pour moi, il y a vraiment une période. Hein. Comme Bellerive, je pense que les années de feu, c'est ces années-là. Hein.
Ouais.
Depuis l'amour anarchie jusqu'à il n'y a plus rien, et puis même après. Mais bon, après, moi, je pense que Léo a eu tort de quitter Barclay. Parce qu'il était quand même très bien conseillé avec Marsan. Marsan a s'occupé de Lavilliers avec le succès que l'on sait après, hein, avec les moyens techniques. Alors, problème, bon, Ferré a voulu tout gérer lui-même. Sa carrière, bah, c'était des petits cabarets, enfin, c'est pas des cabarets, des petites salles de spectacle. Il n'avait plus l'appui des médias ou pas beaucoup. Il a beaucoup tourné en banlieue, enfin. C'est vrai que avant de revenir à l'Olympia, ça avait été un peu galère. Mais je pense que c'est un peu de la faute de Ferré. Il a quitté brutalement Barclay, même s'il a refait un disque après, oui, chez Barclay. Mais bon,
pour des raisons opportunes.
Et puis, je pense aussi, mais là c'est personnel, c'est qu'il a voulu privilégier une carrière en Italie. Mais alors là, si on parle de la carrière italienne de Ferré,
bah, ça va être vite fait.
Non. Peut-être ça va être. C'est le problème, ça n'a pas bien marché.
Ah oui.
Et je pense encore, l'attitude de Ferré était très, très négative. Sa réputation d'homme désagréable, là-bas, il l'avait un peu entretenu parce que dans une émission de télé, il passe La Solitude. La Solitude, la version italienne, hein, d'Enrico Medail. Et ça finit par La Lucidité se tient dans mon froc. La lucidita me la tengo nelle mutande. Et ça avait choqué la présentatrice. Oh. Et Ferré commence à l'engueuler en lui disant « Mais vous portez pas de culotte, vous ?»
Oui,
bon, ça l'a grillé. Il y a eu aussi un deuxième passage, un télégramme en colère de Léo à un producteur de télé. Il n'est jamais repassé. Et il n'avait pas, comme je disais tout à l'heure, l'appui d'une maison de disques. Alors, il a fait des disques, on se demande comment c'est sorti, Love, là, des marques pas très connues, autoproduites presque, qui n'ont pas bien marché. Bon, il avait fait quelques disques pour Barclay en italien, en 45 tours, mais quand il a voulu faire carrière en Italie, il y a eu 33 tours, dont le plus réussi est à la solitude. Et c'est tout, et ça n'a pas bien marché, il n'y avait pas d'appui, il faut quand même du marketing un peu, enfin je veux dire, même si tu ne te vends pas, ce n'est pas de la prostitution que de contacter des gens, et puis ceux qui pouvaient l'aider, bon, il les a envoyés un peu balader, de façon qu'il l'a grillé un peu. Donc je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Par contre, il y a eu beaucoup de reprises après, parce que dans le milieu quand même d'Italiens francophones qui aimaient la chanson française, il avait sa place.
Hein. Oui, bien sûr.
Donc, Il y a eu beaucoup de reprises. Et bon, la première, j'en parlerai s'il y a une émission sur Enrico Medaille, c'est le disque La Solite ou Dîner.
Oui, puis peut-être on va en parler dans quelques instants. Mais je voudrais qu'on reste encore sur l'œuvre, malgré le fait que ces albums-là, donc 70-74, on va dire à peu près, sont ceux qui t'ont le plus marqué. Tu vas continuer à suivre son œuvre, bien évidemment.
Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, oui, je les ai tous achetés au fur et à mesure qu'ils sortaient. Quoi.
Et tu, en les écoutant, tu te disais déjà, toi, à ce moment-là, tiens, il aurait peut-être dû rester chez Barclay. Alors, c'est un peu rapide de se dire ça, mais est-ce que tu as senti dans sa manière de composer, de présenter des œuvres au public, est-ce que tu as senti un changement aurait pu l'éloigner, effectivement
dans les orchestrations, qu'il devenait un peu plus... presque sirupeuse, non, c'est peut-être méchant, mais... Mais moi, j'aime pas ce que l'on appelle les années Toscane. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Je trouve que c'est beaucoup moins intéressant.
Moins ton... voilà. D'accord.
En Italie, il avait aussi enregistré des disques avec l'orchestre de la RAI, la radio italienne, radio-télévision italienne, sous le nom de l'orchestre de Milan.
Ou mais c'était des. Ou inversement, peut-être, non ?
Non, c'était l'orchestre de la RAI qui n'avait pas le droit de prendre ce nom-là pour les sessions qu'il faisait de... Comment on appelle ça ? Des sessions radio à leur compte. Quoi.
D'accord. Pirates ?
Pas pirates, parce que c'était... Ils n'avaient pas le droit d'appeler leur nom. De s'appeler la RAI quand ils faisaient... Ils travaillaient pour d'autres artistes.
Bien sûr. Mais c'est, donc cette la période Toscane, c'est moins ton, c'est moins
moi,
ta chose.
Moi, j'ai suivi, mais bon, mais c'est vrai que moi, c'est la période Barclay qui a été la plus riche.
Ça n'a pas entraîné des amours non plus.
Non, j'aime bien toujours, mais c'est vrai que j'entre moins peut-être. J'ai trop accroché à ces années-là. Quand même, c'était des années riches.
Hein. Ouais. Il y a des œuvres qui t'ont particulièrement marqué dans ta découverte de l'œuvre de Léo. Alors, bien sûr, Le Chien, bien sûr, mais...
Oui, ben, c'est les albums de Léo, purement de Léo, mais aussi les reprises de Rimbaud-Verlaine.
Ouais.
Ça, c'est un disque que j'ai offert, je ne sais pas combien de fois, à des amis. Ça, pareil, en Italie, j'ai offert pas mal de 33 tours, La Solitude, pour le faire connaître. Ben, bon.
Le double album Verlaine Rimbaud, c'est un album qui t'a particulièrement marqué.
Ah oui, beaucoup, oui.
Que tu as découvert donc après, ou que tu connaissais déjà un petit peu.
Je connaissais un petit peu, mais oui, c'est quand même la période, c'est Barclay, hein, de toute façon.
Oui, bien sûr.
Mais dans les albums, Barclay, il n'y avait pas que la trilogie Le Chien, La Solitude, il n'y a plus rien.
Oui, bien sûr.
Et c'est un album qui m'avait beaucoup marqué. Après, quand c'était plus ou moins autoproduit... Non, je aime tous ces mêmes, il n'y en a pas un qui sort. Moi, j'aime bien La Mort des loups, par exemple. Je te donne aussi, ça. Je te donne, c'est sorti chez Barclay.
Non, je crois
non,
pas.
Non,
hein.
non, peut-être pas.
Ça doit être CBS, hein, Je te donne, je crois.
Oui.
Qu'il a chanté en italien aussi.
Alors ça, c'est autre chose. Hein. Les albums italiens... Donc, il y en a un qui est superbe, c'est La Solitude. Après, il en a fait un deuxième, Je te donne, justement... La traduction de Guido Armellini, qui était professeur universitaire. Et ça se sent.
Ouais.
C'est pas du tout... Enrico Medaille, il était poète, écrivain aussi.
Donc, Enrico Medaille, qui est le premier, je dis pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas forcément cette traduction-là, Enrico Medaille, qui est l'un des tout premiers à avoir traduit Léo en italien, est-ce que je peux dire ça comme ça ?
C'est pas l'un des tout premiers, c'est le seul, le premier. À l'époque, c'était le seul. Et donc le disque a été enregistré chez Barclay, Enrico Medaille était présent, et Ferré a chanté, interprété ce disque qu'on a découvert un peu plus tard en France, La Solitude. Dans les chansons qu'avait proposées, les adaptations en italien qu'avait proposé Enrico Medaille à Léo, il y en avait qui n'avaient pas été prises. Et ça fait l'album... d'Enrico Medaille.
Lui-même
il n'a pas repris les chansons que Ferré chantait, mais il a fait.
Et donc, il y avait une différence entre la façon dont Enrico Medaille traduisait Léo et cet autre traducteur dont tu nous parlais il y a quelques instants.
Sans aucun doute. Hein, je parle assez bien italien pour comprendre la différence. En fait, comme je te disais, Enrico Medaille était d'abord poète et il adaptait. Bon, prends un autre exemple. Edgar Poe a été traduit par Baudelaire. Après, il y a eu des traductions d'Edgar Poe qui sont universitaires, qui sont peut-être plus fidèles, mais qui accrochent pas.
n'y a pas le style.
Ben, voilà, c'est ça. Donc pour Enrico Medaille, ce disque-là, c'est une perle, hein, c'est vraiment un joyau. Et même après, le sien, lui, Enrico Medaille, chante d'autres chansons de Ferré, c'est vraiment des petits bijoux de traduction. Guido Armellini, qui est une personne charmante hein, que j'ai rencontrée, eh bien, ça sent le travail universitaire. Bon, voilà.
Plus cadré, plus posé, moins instinctif.
Ouais, bah, donc, ça. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait un troisième disque en italien. Là aussi, est intervenu un personnage. Le prénom, c'est Detto, je ne me rappelle plus du nom. C'était un compositeur d'Adriano Celentano. Oui. Donc, un compositeur de variété, qui s'était mis un peu à la chanson et qui avait aidé à reprendre tout un album de Ferré aussi, en italien, et qui n'a pas beaucoup marché, on ne sait même pas. Il y a eu une drôle d'histoire d'ailleurs.
Qu'il a chanté lui, que Léo n'a pas chanté. Que c'était...
Ferré a chanté. Et la musica mi prende come l'amore. Mm-hmm. À ce propos, là, c'est que Mathieu dit avoir perdu une bande magnétique qui était des chansons en italien de Ferré, enregistrées chez Barclay, à l'époque où il se sépare de Barclay, en 76 peut-être. Ouais. Donc Ferré quitte Barclay et il avait enregistré des chansons en italien qui n'ont jamais été publiées, sauf une, ses préfaces, je crois.
D'accord.
À la Scuola della Poesia. Et donc, il y a une bande qui a été envoyée à Ricordi Record, enfin, les disques Ricordi, pour pressage en Italie, pour diffusion, qui n'a jamais été fait. Et en plus, la bande, elle est perdue.
D'accord.
C'est un grand mystère. Là, Xavier Perrault a tout fait pour les retrouver. Bon. Et les disques Ricordi ont été repris par Sony. Donc Sony, c'est très sérieux, comme ils ont un système d'archivage assez pointu, mais apparemment, ils n'ont pas retrouvé.
Ils ont rien trouvé.
Donc, une hypothèse qu'a émise Alaric Perrollier, c'est que c'est ce fameux Detto, je te dirais le
quelque
nom.
Quelque chose, là, oui, oui.
Qui avait produit le disque La musica mi prende come l'amore, et qu'il aurait eu la bande. Et qu'il est mort et on ne sait pas ce que c'est devenu.
D'accord.
Mais c'est une hypothèse, mais j'y crois assez bien. Hein,
oui, pourquoi pas. Ça.
L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde in un pezzo di pan. In prigione sognava le lepri che fuggono sul terriccio invernale nella nebbia d'inverno. L'uomo vive tra muri di strade bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pan, in un pezzo di pan. Uno crede che dopo rinasca la vita, che il respiro si calmi, che ritorni l'inverno con l'odore del vino nella calda osteria e il buon fuoco, la stalla e le cene. Uno crede finché dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo. Gli altri allegri, bisogna guardarli dai vetri. L'uomo solo osa entrare per bere un bicchiere quando proprio si gela e contempla il suo vino, il colore fumoso, il sapore pesante, mordi il pezzo di panne che sapeva di lepre in prigione, ma adesso non sa più di panne né di nulla e anche il vino non sa che di nebbia. Non sa che di nebbia. L'uomo solo ripensi a quei campi, contento di saperli già arati. Nella sala deserta sottovoce si prova a cantare. Rivede lungo l'argine il ciuffo di rovi spogliati che in agosto fu verde. Da un fischio la cagna e compare la lepre e non hanno più freddo.
Daniel Dalla Guarda, aujourd'hui dans le Ferry Club sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, 89.4 FM. Cette œuvre, Daniel, tu la connais très bien puisque tu la côtoies quand même de manière très très intense. Très rapidement après, quand est-ce que tu commences à vraiment être intime avec cette œuvre? De quelle manière, en fait? Tu comprends ma question? Elle est un peu large, peut-être, ma question.
Le problème, c'est bon, je pars au début, je connaissais pas grand-chose, j'arrive à connaître pas mal de choses.
Bah oui, quand même, ouais.
Y compris à découvrir des choses nouvelles que Mathieu n'avait pas. Mais ça s'est fait par, au fur et à mesure, avec le temps, en cherchant, je cherche toujours. Hein.
Ouais.
Et puis aussi à travers des interprètes. Bon, je parle d'abord de Médaille en italien, mais il y avait beaucoup d'interprètes en France. Hein.
Bien sûr.
Et ça aussi, ça m'avait bien plu, je me suis bien intéressé aux interprètes.
Tu as été très rapidement sensible aux interprètes de
Léo. Oui, aussi, hein. Parce qu'il y avait quand même des belles choses.
Oui, quand même. Oui,
oui. Ouais. Donc, j'aime bien les interprètes qui ont chanté Ferré à l'époque.
D'accord.
En même temps que Ferré. Hein. Mais c'est très daté. Après, il y a eu des reprises modernes, dont Philippe Léotard. C'était vraiment des reprises personnelles et vraiment très très bien. Bon, je connais beaucoup d'interprètes, même personnellement. Hein, et ça m'a conforté dans cette connaissance, hein, c'est vrai.
Ouais.
Puis bon, comme je me suis intéressé aussi aux traductions, je parle un peu... Bon, je parle bien italien, un peu anglais, même pas mal anglais, et puis un peu allemand. Donc j'avais commencé des traductions pour compenser un peu, pour voir ce que ça donnait.
D'accord.
Donc là, je vais avoir recensé plus de 500 traductions.
Ah, 500 traductions, mais que tu as faites toi, que
ah
tu
non,
as
non, que j'ai récupéré, oui,
tout
oui.
Le monde.
Ah oui, bah, je compte celle d'Enrico Médaille dans l'italien, je compte.
Ouais, bien sûr.
Il y a beaucoup de choses. Hein. C'est impressionnant le nombre de traductions à l'étranger.
Donc, on va dire que dans... Alors, est-ce que j'extrapole en disant que dans ta découverte de l'œuvre de Léo, les interprètes ont joué un rôle aussi qui t'ont permis de vraiment...
Tu penses à Gréco?
Ouais.
Sauvage. Mm-hmm. Bah oui, il y a des titres que j'ai connus d'abord par Sauvage et après par Léo.
Ouais, bien sûr.
Donc, ça contribue. Et puis, voir sur scène aussi les interprétations en public, ça apporte quelque chose.
Ouais. Tu vois. Avant d'aller aux interprètes, peut-être parler des concerts auxquels tu as pu assister, les concerts de Léo. Ouais. Alors, tu me disais que tu assistais à pas mal de concerts organisés par le groupe Louise Michel.
Louise Michel ou le gala Le Monde Libertaire. Hein.
D'accord.
Moi, je faisais pas la distinction. J'appelais ça le gala des anards. Et puis, c'était avant 68. Hein. Donc, des genoux quand même.
Donc là, tu as commencé à le voir en concert déjà à ce moment-là?
Quelques-uns, oui, quel spectacle, ouais. Mais ils ne chantaient pas forcément des récitals entiers. Hein.
D'accord.
Hein.
Et ensuite, tu as continué à aller le voir en concert, j'imagine.
Bah, après le Bobino 68, là, ça, j'ai pas raté, sauf que j'étais pas toujours à Paris pour des raisons professionnelles, donc il y a des spectacles que j'ai pas dû voir, mais...
Oui.
Mais sinon, le fidèle des fidèles. Quoi.
Ouais, bien sûr. Il y a des souvenirs qui t'ont marqué particulièrement dans les différents concerts auxquels tu as pu assister? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu te souviens?
Il y avait les galas de soutien au monde libertaire.
Oui.
Oui, ça, surtout celui de Ballard, hein, on y était allé.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué?
J'ai bien aimé les... Alors, il y en a deux. Pardon, je suis coupé.
Non, je t'en prie.
Mais j'ai bien aimé, c'était le... La musique me prend comme l'amour, là, au théâtre...
À Paris?
Oui, à Paris.
À l'Opéra Comique? Non.
Oui, voilà, le spectacle à l'Opéra Comique. Alors là, c'est petite revanche, c'est moi qui avais invité mes parents et ma famille à voir le spectacle.
Ah, c'est chouette ça.
Ah oui.
Ah, c'est sympa.
On y était allé, puis on avait salué Léo rapidement, parce qu'il y avait tellement de monde, Dans il a chanté Les Poètes aussi, hein. C'était ce spectacle sur les poètes au Déjazet. Le Déjazet, j'aimais bien, hein. C'est vrai qu'il y avait une ambiance particulière. Mm. On sent bien que c'était Ferré, c'était son endroit. Mm. Et il y avait une ambiance, un public qui était vraiment chaleureux, là.
Ouais.
Mais, bon, je dis souvent, c'était les derniers temps, c'était des petites salles, quoi. Bon, il y avait l'Olympia 72, hein, qui était quand même un sacré moment. Hein. Retour de Ferré à l'Olympia.
Bien sûr. Mais il n'y a pas de moment particulier, à part, bon, des grandes intentions de sa part, il n'y a pas des choses...
Y a une fois, c'était particulier, c'était à Villepreux. Non. Dans les Yvelines, à côté des Clés-sous-Bois, où j'avais passé mon enfance. Et Ferré passe dans la MJC de Villepreux. Puis la deuxième chanson, panne de son. Et Ferré a fait tout le spectacle en a cappella.
Très bien.
Ah, ça, c'était quelque chose.
Hein. Ouais, il ne nous a pas fait un caprice de star en disant, bah, s'il n'y a plus de trucs, je m'en vais.
Ah, ouais, non, c'était pas son genre. Non. Ouais, ouais. Non, non, là, il avait continué.
C'était quelle année, ça, tu te rappelles ?
Comment ?
En quelle année était-ce ?
Oh là là, entre 75 et 80.
D'accord.
Ouais. 75, c'est sûr.
D'autres, est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous donner ? D'autres choses
non,
qui t'ont marqué en concert ?
Non, parce que ça ne me vient pas ça. Chaque spectacle était particulier. C'était toujours un coup de poing dans la gueule, mais bon.
Ouais. Et donc, quand tu allais en concert, est-ce que tu prenais le temps d'aller saluer Léo ?
On arrivait alors. Ouais. Pardon. Oui, ça, on essayait. On essayait, mais il y avait des...
Beaucoup de monde.
Beaucoup de monde, mais surtout, il y avait une barrière qui était assez efficace. Bon, à l'Olympia, je comprends, parce qu'ils ont un service d'ordre. Mais même sur les petites salles, et entre autres, il y avait une amie de Léo, de Versailles, qui nous bloquait à chaque fois.
Ah bon ?
C'est quelqu'un qui était... Bon, Ferré dormait chez elle souvent quand il était à Versailles ou même à Paris. Et cette dame, on la voyait de temps en temps et... Impossible de passer. On n'essayait même plus. À la fin, quand on la voyait, on se disait, bon, elle faisait un filtre, mais à mon avis, elle n'avait que quelques personnes à laisser passer et tout. Ouais, c'était pas quelqu'un qui... Ah oui, bon, on va voir si... Parce que ça m'arrivait, on allait le voir, on demandait, est-ce qu'on peut aller le voir ? Et puis, bon, bah, je reviens. Et puis, c'était oui, c'était non, il est fatigué, bon, voilà.
Oui, ça peut arriver, ça peut
c'est
se comprendre.
C'est normal, ça.
Bien sûr.
Mais là, c'était, avec cette dame, c'était systématique.
Et c'est pas toi qui étais visé particulièrement ou c'était...
Non, non, je pense qu'elle avait une liste de noms, quoi.
D'accord.
Mais ça se trouve, j'avais une gueule qui lui revenait pas.
Oui, pourquoi pas.
Ça ne s'en prendrait pas.
Ça, c'est... On en vient peut-être à ton goût pour les interprètes, même si on a déjà commencé à en parler un tout petit peu. Mais je voudrais insister un peu sur cette dimension, parce que c'est un des gros travaux que tu mènes sur cette œuvre de Léo, c'est quand même ce recensement des interprètes.
Ouais, ça, c'était un peu anecdotique au début. Oui.
C'est de
même. Voilà, l'historique de ces interprètes, de ces listes d'interprètes,
oui.
C'est encore le site de Julien. Le site leoferré.org, qui est le premier site dédié à Ferré à ma connaissance.
D'accord.
Et là, Julien avait un ami qui l'aidait aussi.
Quand tu parles de Julien, c'est Joël Jacques Julien, c'est
oui, ça ? Oui, voilà. Alors c'est Julien, il y a des pseudos, mais bon, pour moi c'était Julien. Bon.
Très bien.
Et sur ce site, il y avait une petite liste d'interprètes qui avait été établie par un collectionneur de Ferré qu'il connaît bien aussi, maintenant on s'est perdu de vue, Gérard Sturm.
D'accord.
Qui était prof d'italien en plus, donc on avait bien sympathisé sur ce côté italien de Léo. Et lui, il avait mis une petite liste que j'ai, au fur et à mesure, agrandie, et en y insérant aussi les interprétations en public.
D'accord.
Parce qu'il y a, par exemple, je prends toujours l'exemple de Claude Piépu, qui a dit dans un gala la langue française.
Ah, ouais, d'accord.
Ça, j'aurais bien voulu l'enregistrer.
Ah, hein. Ouais, avec le ton de Claude Piéplu qui était très particulier. Ouais, ça devait être sympa, ouais.
Ah oui, ah, c'était un monument. Donc, tu vois, moi, je trouvais que c'était utile de le signaler dans la liste.
Tu avais assisté à ça, à Claude Piéplu
oui. Ah oui, ce gars-là, oui, j'avais été présent. C'était... Mais ça devait être un festival qui était organisé par la bande Orange. Julien et Trinquier.
Et Claude Pieplu était proche
Oui, bah, enfin, on en a un peu parlé.
Ah, et, c'est chouette. Ce
festival, il était... En fait, c'était tout un ensemble d'artistes qui ne chantaient que Ferré, deux ou trois chansons de Ferré.
D'accord. Hein.
Donc, il y avait du monde, hein, quand même, mine de rien, on interprète. Alors ça, j'ai rajouté Orange.
Ouais, oui.
Bien sûr. Okay. Donc, Julien ressaisissait...
D'accord. Voilà.
Et cette liste-là, je la maintenais. Parce que bon, ça, c'est mon côté informaticien, c'était systématique, bon, voilà. Ouais. Et j'avais été en contact aussi assez rapidement avec Luc Vidal.
Oui.
Pour les cahiers Léo Ferré.
Bien sûr, les cahiers.
Donc j'avais écrit un article sur un petit article sur Testori, par exemple.
D'accord, d'accord.
Dans le volume Amour Anarchie. Là. Et puis il m'avait dit bah, c'est bien cette liste, on va la mettre comme sur une base de données. Ça s'est jamais fait. Bon, Luc Vidal avait plein d'idées, pas les moyens de les mettre en œuvre. Et c'est dommage. Mais enfin, donc j'ai maintenu pendant longtemps cette liste. Maintenant, non, c'est moins. Il y a moins de nouveautés.
Ouais,
enfin,
c'est vrai, tu l'as, t'es moins au taquet.
Non, c'est moi qui suis moins. Je suis moins aussi, peut-être, je ne sais pas.
Ouais.
Bon, mais enfin, j'ai quand même recensé plus de 3500 interprètes, hein, interprétations. Hein.
Ce travail de recensement et de liste, il a donné lieu à un article, notamment,
oui.
Dans les cahiers d'études Léo Ferré, numéro 11, intitulé « La mémoire et la mer ». On trouve un article intitulé « Statistiquement tiens », signé de Daniel. Anecdotique, tu disais tout à l'heure
ou... Le titre, oui. Mais oui, par contre, c'est intéressant, moi je trouve, de savoir qu'il y a eu des interprétations importantes. Bon, tout le monde les connaît, mais... Il n'y a pas que. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et puis il y a aussi les interprétations étrangères.
D'accord.
Et là, il y a beaucoup de choses. Mais le fichier n'a jamais été publié en tant que tel. Hein. C'est juste la synthèse. Aussi pour montrer que les poèmes d'Aragon sont quand même dans les plus repris.
Ouais.
Et là, c'est pas, y a un public qui achète Aragon et des interprètes. Philo-communiste, on va dire, qui le mettait systématiquement en scène. Et puis bon, il faut dire qu'Aragon, il n'a jamais été aussi bien servi musicalement que par Ferré. Les mises en musique de Jean Ferrat, par exemple, ont moins marqué. Hein.
Peut-être. Alors effectivement, dans cet article, on a un relevé statistique d'un certain nombre de titres. Tu nous as listé par exemple les 15 titres les plus repris de Léo. Et arrive en premier avec le... Alors, en premier au moment où cette liste est établie,
oui.
C'est-à-dire
oui.
On est en 2013, hein, c'est
ouais,
ça
ouais.
Au moment où paraît ce numéro 11. Donc par exemple, en 2013, tu établis, Daniel, qu'il a été repris 305 fois avec le temps. Paris Canaille, 262 fois.
Oui.
Joli Môme, 143 fois. Est-ce ainsi que les hommes vivent, 110 fois. Le piano du pauvre, 100 fois. Pauvre rue de Boeuf, 97 fois. Cet extra, 96. Comme à Ostende, 92. Monsieur William, autant. L'affiche rouge, 89. 20 ans, 88, etc., etc. On arrive quand même à La mémoire et la mer en 12e. Les anarchistes, le temps du tango, l'âge
d'or. Il faudrait remettre à jour, hein, parce que...
Tu continues cette mise à jour ou pas?
Un petit peu, pas toujours, parce que bon, ça m'échappe. Et puis ça
il y a moins de monde.
Et puis je veux pas trop la diffuser. Non plus, parce que ça s'est dispersé. Vraiment, alors ça, c'est autre chose. Mais donc, depuis la publication de cet article, La mémoire et la mer est reprise beaucoup plus souvent. Bien sûr, ça remonte nettement dans le classement.
D'accord.
Avec le temps aussi, bien sûr.
Ouais.
Voilà. Donc, Paris Canaille, c'est un peu moins repris, ça se comprend.
Ouais.
Voilà, donc il faudrait le refaire, mais bon. En plus, j'ai été très déçu parce que dans une réunion du comité de relecture du Forum Ferré, là, j'en avais parlé de cette liste. Et tout le monde m'avait demandé, oh, tu me l'envoies. Alors, bêtement, je l'ai donné, voilà, à tous les membres, là, j'ai les noms.
Bah, c'est bien.
Oui, d'accord, mais le problème, c'est que certains s'en sont servis. Pour eux, bon, et qu'ils gardent ça dans leur coin, ça ne me gêne pas, mais d'autres l'ont presque redistribué. J'ai vu un Canadien qui, un jour, envoie un courrier sur je ne sais plus quel site. J'ai recensé 300 interprétations de Ferré, j'aimerais bien en avoir plus, pouvez-vous m'aider? Bon, d'accord. à peu près un mois, deux mois après, dans les cahiers d'études Ferré, non, dans les Copains de la Neuille, c'est pour ça que j'aime pas trop cette revue, le comité de rédaction propose un article. Un certain Pellerin a recensé 2500 interprétations. On pourrait en faire un article.
C'était le Canadien, Pellerin ? C'était le Canadien ?
Oui, j'ai dit un Pellerin pour que ça soit vague, mais enfin bon,
oui,
c'était
d'accord,
lui.
D'accord.
Et ce Pellerin, donc, effectivement, il recensait. Et c'était la 2500 interprètes, c'était à peu près ce que j'avais trouvé à l'époque de Voilà. Et j'ai quand même des copains hein, dans le milieu. Il y en a un qui me dit, regarde ce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, et c'était cette liste-là.
Ah oui, d'accord.
D'accord, donc, bah, je veux dire, qui cite, c'est bien, mais enfin, au moins citer que c'était moi l'auteur.
Bah oui, quand même, ouais.
Il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus, mais ça m'a pris 20 ans. Enfin, depuis que j'avais commencé, j'ai mis à jour pendant 20 ans. Donc, c'est vrai que maintenant, ça doit être à 5300 quelque chose. Il faudrait que je revoie le classement.
Tu vois. 5300, t'en es à 5300 ?
Interprète, oui.
Ah ouais, quand même.
Interprète,
ouais,
alors, il faut bien être précis. Quand un chanteur fait 5 disques avec la même chanson, du genre Pagny qui chante joliment sur 5 albums, je compte qu'une fois, bien sûr.
D'accord. Hein, d'accord.
Par contre, quand quelqu'un fait un disque avec 12 reprises de Ferré, je compte 12 interprétations, ce qui est normal. Hein, c'est comme ça que j'appelle. Voilà. Donc, ça fait quand même beaucoup. Hein.
Ouais, c'est énorme, 5200, ah, ouais, c'est colossal.
J'ai tant rêvé de vivre un grand amour, un grand amour qui durerait toujours, que j'ai gardé pour elle tous mes trésors de tendresse. Les songes de mes nuits, mes illusions de jeunesse, j'ai tant rêvé de la connaître un jour, qu'elle doit venir m'apporter sans retour. Le grand bonheur que follement mon cœur attend toujours, j'ai tant rêvé de vivre un grand amour. Pourquoi faut-il que rien ne soit durable? Le feu le plus ardent brille et s'éteint, les fleurs, hélas, ne vivent qu'un matin. Tous les serments sont des châteaux de sable qu'emporte au loin la vague de l'oubli. Pourtant, l'avenir me sourit. Et toujours, j'ai tant rêvé.
Radio Libertaire 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste, entretien avec Daniel Dallaguarda. Et alors, ton travail de recherche, il va aussi vers des documents rares, puisque tu es un dénicheur quand même de documents rares. Tu as la chance d'être entouré, très bien entouré, par Donatella, qui est ta compagne et qui est chercheuse. Donc, qui a, d'une certaine manière, une certaine...
méthodologie.
Voilà, méthodologie, voilà, une propension à faire ça. Mais c'est vrai que, comme je le disais en introduction de ce propos tout à l'heure, ton nom apparaît en tant que dénicheur de rareté, il faut le dire quand même.
Oui, oui. Ouais. Oui là, j'étais touché par la mention que fait Alary Perrollier sur le site de Mathieu.
Bien sûr,
qui dit effectivement que, bon, on a trouvé... Alors, Donatella a trouvé les hommes de la nuit.
Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais en déjeunant il y a quelques minutes de ça, tu m'as parlé d'une chanson qu'on connaît quand même pas mal de Léo, qui n'est pas la première qu'on va citer, bien évidemment, mais qui est quand même un peu connue, qui parle de poésie, qui parle d'un poète.
Oui, la poésie Foulquand Villon. Elle était destinée au premier 25 cm chez Barclay, avec Panam. Et... il y avait la poésie. Et la poésie Foulquand Villon. Et alors Barclay a dit, oui, mais ça fait deux chansons. Deux.
Mmh. Double emploi, ouais.
Voilà. Mmh. Et alors, donc, cette chanson, on savait qu'il l'avait enregistrée, mais elle n'a pas été retenue. Et alors, il se trouve, je crois, savoir que Barclay n'archivait que les disques sortis. Il y avait peu d'enregistrements préparatoires.
D'accord.
C'est d'où l'intérêt de trouver des disques... test pressing, hein, des échantillons avant fabrication. Et donc, cette poésie Foulquand Villon, je crois que c'est en 2013, j'ai trouvé, alors c'était chez un marchandiste chez qui j'allais souvent voir s'il y avait des choses sur Ferré, et ce marchand, c'est Michel Cizaruc, le frère d'Annick Cizaruc, qui vendait des disques au Puce Saint-Ouen. Je travaillais à côté, donc on allait se voir. Puis un jour, j'ai arrêté de bosser. Lui, il a arrêté son magasin. Mais on se rencontre pas loin. Il est dans le 13e, je suis dans le 14e. Donc on se rencontre un jour dans un bar. Et puis il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Et puis... il me propose un petit test pressing en me disant c'est celui de Panam. Bon, je prends, j'aime bien. Et puis, c'est un peu après quand même, je le réécoute. Et en plus, je réécoute dans les studios Arresson, je crois que c'était le nom, qui était un peu sous-traitant de Barclay.
D'accord.
Pour ce qui était vinyle. Et là, j'écoute les premières chansons. Les deux premières, c'est celle du 25 cm. Et la troisième, c'est la poésie Foulquand Villon. Donc, j'avais trouvé avant que Barclay décide de ne pas la diffuser. Donc, tu m'étonnes, je téléphone à Xavier Perrault, responsable de Universal des disques pour Ferré, entre autres.
Ça doit être émouvant, quand même, de
ton là, le technicien m'a dit, mais j'ai cru que tu allais t'évanouir.
Ah bah oui, tu ne m'étonnes pas.
Bon, je suis assez émotif, mais là, effectivement, trouver ça... Et ce qui est drôle, c'est que j'en reparle à Michel Cizaru, qui m'avait proposé ce disque, et il dit, j'écoutais que les deux premières. Il ne s'était pas aperçu qu'il y avait cette rareté.
Oui. Il t'aurait sans doute vendu plus cher, tu me disais.
Oui, bon, enfin, si j'avais su, j'aurais acheté plus cher, oui, aussi, de toute façon.
Et donc, tu contactes Xavier Perrault, donc avec qui tu es en contact, alors?
Ah oui, j'étais assez en contact assez rapidement.
Oui, comment se fait-il que tu sois rentré en contact avec Xavier Perrault? Parce qu'il connaissait ton talent de dénicheur?
Alors, en fait, Marie-Christine avait été contactée par Xavier Perrault pour des informations sur Ferré, des enregistrements et tout. Alors Marie-Christine, systématiquement, elle disait, il faut contacter Alain Fournier, qui était un grand collectionneur.
D'accord.
Qui est mort maintenant. Et Layani. Et alors, ils échangent entre eux, moi, je ne savais même pas. Ouais. Mais c'est à un moment donné, quand même, je téléphonais presque tous les jours à Alain Fournier. Donc, c'est un bon copain, on se donnait des petites nouvelles de sortie, d'interprètes, de petites choses comme ça. Et Alain Fournier me dit, il y a un certain Perrault, là, qui m'appelle, il veut voir ma collection. Mais il est à Paris, il était dans le Lot, quand vous pouvez.
D'accord.
Effectivement, je voyais mal Xavier aller là-bas. Alors je propose à Alain, t'as qu'à dire que qui me contactent. J'en avais plus des 10, ils ne le savaient pas, mais tout ce qui, j'en avais autant, au moins autant. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Xavier passait chez moi, il avait récupéré des vinyles qu'il avait besoin de refaire. Bon. Donc ça s'était passé comme ça. Donc c'est comme ça qu'on est resté en contact. Et c'est comme ça que j'ai eu un peu accès au studio Harrison pour proposer des épreuves, des vinyles. Bon, alors on a proposé d'autres choses qui ne sont jamais sorties. Hein. Par exemple, on parlait de Bobino 69, ce spectacle mythique, on va dire. Eh bien, j'ai une captation de l'ORTF, qui n'est pas la même journée, donc, et avec le bateau espagnol. Ah. Voilà. Oui. Donc, j'ai proposé ça, et toujours à Xavier, qui avait conclu que c'était techniquement pas très bien, pas suffisamment bon. Donc c'est jamais sorti, mais j'ai une captation différente du Bobino 69 d'un autre jour, avec en plus la version du bateau espagnol. Pareil aussi, alors là c'est encore autre chose, là c'est un exemplaire unique. La chanson « J'ai tant rêvé » que Mathieu a réédité récemment, c'est une chanson que fredonne Léo Ferré dans le film « La cage d'or », Cage of Gold, où il joue le rôle d'un pianiste de cabaret. Donc là, on entend fredonner plusieurs chansons dont « J'ai tant rêvé », qui n'est ni dont Ferré ne fait que l'interpréter. Hein, les paroles et musiques sont de tâcherons du cinéma, de musique de film. Et ce disque-là, c'était un acétate. Je l'avais trouvé sur un site de vente par correspondance comme étant « Soundtrack of Cage of Gold », la bande sonore de... C'était vendu en Angleterre. Et je le prends pour rattacher quelque chose de concret sur ce film que je n'avais même pas encore visualisé. On n'avait même pas la bande encore à l'époque. Donc c'était quelque chose de tangible, voilà. Mais j'étais persuadé que c'était la musique de fond de Georges Ory, qui est aussi un tâcheron des bandes sonores à l'époque. Bon, ça m'emballait pas plus que ça, mais c'était un objet qui était rattaché à ce qu'avait pu faire Ferré. Et comme c'était un acétate très fragile, j'ai fait attention de pas trop l'écouter. J'ai pas écouté d'ailleurs au départ. Je ne l'ai écouté que chez Harrison, là dans le studio. Et alors là, j'entends, c'était pas la musique de fond, c'était vraiment chanté. Et je me dis, mais c'est Léo, mais c'est pas Léo. Puis en plus, il chantait différemment à l'époque. Hein, c'était vraiment les tout premiers. Et quand même, oui, ben je réécoute chez moi, parce que au studio, ils avaient passé une seule fois le 78 tours qui gravait directement, et après, j'ai pu toucher.
D'accord, ouais, bien sûr.
Voilà. Donc j'avais déjà un CD qui allait servir à être remasterisé, comme on dit, plus tard, et diffusé. Et c'est ce CD, cette prise-là, qui a été envoyée à Mathieu tout de suite, bien sûr.
Et donc tu as découvert sur cette...
Ah oui, là, et c'est un objet unique.
Là, c'est Léo qui chante, alors, en fait.
Et c'est Léo qui chante, oui, bien sûr. Alors, il y a deux chansons sur ce 78 tours, qui est monoface. Donc, sur une seule face, il y a deux titres. L'autre, c'est Le Beau, j'ai oublié son prénom, l'actrice du film.
D'accord.
Ouais. Pas l'actrice principale, mais la vedette du cabaret. Et elle chante, elle aussi, La nuit est à nous, en version franco-anglaise, bilingue. Elle chante un peu en anglais, un peu en français. Ferré ne chante qu'en français, bien sûr, mais ce titre-là, voilà. Donc là, ça a été vraiment une vraie découverte. Ma compagne avait aussi découvert Les Hommes de la Nuit, que personne connaissait. C'est marrant, parce qu'on voit qu'elle est chercheur, et elle a une démarche de chercheuse. Elle creuse un peu. Elle avait vu dans le livre de Travelet que ce film avait été fait à la demande des Charbonnages de France. Donc, elle s'adresse au service d'archives de Charbonnages de France, qui lui dit, oui, voilà, ce film est disponible, il est promotionnel, vous pouvez en demander un exemplaire gratuitement. Donc, Donatella m'offre ça. Et là aussi, ça avait été un petit peu, mais j'en ai parlé tout à l'heure, On l'enregistre, ça passe, Mathieu est averti par Xavier Perrault, et puis ça va sortir un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est Donatella qui a eu une démarche pour le retrouver qui était différente et qui aboutit. Alors c'est là que on va revenir sur tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mathieu m'appelle à travers Chris et Sylvie pour me dire où tu l'as eu, comment c'est. Donc j'ai toutes les coordonnées pour l'avoir. Et il a eu la VHS. D'autres en ont profité aussi, bien sûr.
Tant mieux.
Ouais. À tel point que maintenant ils le vendent. Ah. Ça a été transmis en DVD et c'est vendu. Et puis on a découvert, enfin, dans ma collection de listes d'interprètes, souvent Ferré écrivait des petites postfaces sur l'artiste pour le présenter au public.
Alors des textes cette fois-ci, pas des...
Des petits textes. Ouais, alors là, des textes, j'en ai trouvé pas mal, d'artistes plus ou moins connus. Donc là aussi, ça a été mis, en fait, il y a une petite catégorie dans les chants de la fureur, on trouve pas mal de textes. Alors il y en avait qui étaient connus.
Oui,
hein.
À toute fin du recueil.
C'est peut-être à la fin, ouais, je sais, ouais, oui, mais ouais. On voit pas mal de... Donc je sais que c'était moi qui les envoyais, je les envoyais à Mathieu. Au début, j'ai donné qu'à Jacques Layani, qui lui saisissait des textes pour justement ce qui allait devenir les chants de la fureur. Puis après, je les ai envoyés à Layani et à Mathieu. Donc il les avait et ça a été regroupé. Donc là, sur les textes, j'ai trouvé pas mal de choses aussi. En livre, non, je pense pas.
Donc des nicheurs de plusieurs natures, quoi. Pas uniquement des documents sonores, mais également des documents écrits.
Ah oui, et ouais. Il en a fait pas mal, hein, mine de rien, Ferré, parce qu'il était un peu connu. Donc, bon, je comprends que Jacques Douai, qui avait fait, ou Montero, qui avait fait des 45 tours dédiés à Ferré.
Oui, là, il pouvait.
Bien sûr, mais logique. Il y en avait d'autres aussi. Ouais. Hein.
D'accord.
Il y a un très curieux disque, un conteur angevin, qui dit des textes en dialecte, ou en patois, angevin. Et qui est présenté par Léo Ferré.
Ah ouais,
je crois que l'artiste s'appelle Joulin.
D'accord. Ah, c'est original.
Ah oui, il y a des choses.
Là, pour le coup.
Ferré a écrit pas mal de contes, a contribué. Il y a, bon, là, je n'ai rien trouvé, mais il présentait les peintres aussi dans des expositions d'amis peintres. Il y avait toujours des textes. Bon, je ne parle pas de Simkovitch, où il y a trois textes différents, au moins. Mais d'autres aussi. Il écrivait, il y a eu beaucoup de choses hors publication officielle, quoi.
Donc tu passes beaucoup de temps quand même dans ce travail
temps,
de recherche.
Preuve, hein. Depuis tout à l'heure, je fais que ça.
Non, mais comme quoi, voilà, ta passion te prend aussi
elle est pas feinte.
Beaucoup de temps t'es vraiment très investi dans ce travail de recherche. Et puis dans le goût particulier pour les interprètes.
Je sais pas si c'est particulier. Tout le monde aime bien un autre interprète, je pense.
C'est à toi qu'on doit la liste sur Wikipédia
Non, à l'ARIC, mais alors il a peut-être pris... Elle a circulé, cette liste, sans me citer, donc je ne peux pas dire si ça vient de moi ou pas. Hein.
D'accord.
En général, je les identifiais par le nombre que j'avais trouvé.
Oui,
ça date de temps, voilà.
Oui, je précise pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas, parce que j'imagine qu'ils sont nombreux, elles sont nombreuses, il y a une page sur Wikipédia, l'encyclopédie gratuite d'Internet, il y a une page dédiée non seulement, bien sûr, à Léo Ferré, non seulement à cette discographie, mais aussi aux interprètes, hein, je crois, sans vous dire de bêtises.
Oui, oui. Et à Larry Perrelier, il participe.
Il y a aussi une page des poètes mis en musique par Léo, poètes et autres autrices. Et donc ce goût pour les reprises, eh bien, tu m'en as parlé, on s'en est parlé un petit peu en préparant cette émission, tu aimerais nous proposer dans le cadre du Ferry Club, pourquoi pas, une émission ou deux consacrée à ces interprètes.
Bon, moi, dans mon esprit, oui, mais ça serait d'abord les interprètes italiens, et il ne faut pas se leurrer, une émission ou deux, ça pourrait ne pas suffire.
Ah ben, ou trois ou quatre, hein. Non, mais tu es le bienvenu, tu
non,
le sais,
parce qu'il a
et donc il n'y a pas de souci.
Il y a beaucoup de reprises en japonais aussi, il y a des traductions, chantées, hein, je ne parle pas que de traductions littéraires. Il y a eu, très tôt, un 33 tours entièrement consacré à Léo, en Suède.
Bertil...
Oui, Taube.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Et c'était le fils d'un acteur assez connu, et lui-même acteur et chanteur. Et il a décidé de faire ce 33 tours, je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui est remarquable, c'est que les traductions sont faites par un poète en suédois. Alors, le suédois, je sais à peine dire merci, mais pas mal, c'est quand même quelqu'un de remarquable de sa biographie, Lars Forssell, Forssell, prénom, je prononce peut-être mal. Et ça, il est devenu académicien, mais c'est un poète très connu et dont je pressens un peu, on va dire, quelques ressemblances avec Bernard Dimet. D'accord. Dans le goût, dans l'esprit, il aime beaucoup la chanson française. Et donc, ses traductions semblent excellentes, hein, d'après ce que j'en sais. Et dans cet album, il y a une chanson, la reprise en suédois, l'adaptation, mais j'ai adaptation quand c'est chanté et interprété, de « Elle tourne la terre », qui est peu reprise en France. Là-bas, il doit y avoir une vingtaine d'interprètes suédois. C'est un succès qui n'est pas démenti, c'est encore repris. C'est « Elle tourne la terre », comme cette petite valse là. C'est étonnant, vraiment. Mais on voit bien que c'est l'importance de ce disque 33 tours avec cette version de Lars Forssell, cette traduction.
Voilà, la traduction qui va bien et qui donne
ça, c'est une des choses intéressantes. Hors Italie, bon, sur Italie, j'en ai parlé, j'en parlerai des heures. C'est Enrico Medaille, bien sûr, mais il y en a eu d'autres. Et il y a eu aussi des adaptations très particulières. Mais bon, ça, il faudrait rentrer dans les détails. Mais il y a eu beaucoup d'albums d'interprètes complètement dédiés à Ferré en italien.
Du snorrar min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna. Som fartyg har virvlande tärnor. Har jorden en snurra av stjärnor. Snurra min jord, låt mig följa med dig. Jag är lika värdelös som du. Snurra min jord, du får inte ge dig. Jag vet ingen stjärna som du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara blås som du. Du skälver min jord som du själva ombord, min vän. Natten söker alltid dagen. Du kränger min jord som en koster. Det svänger ett skär paternoster. Med stjärnorna trådar du danser. Med stjärnfall och protuberanser. Snurra min jord, låt mig följa med dig. Jag är lika värdelös som du. Snurra min jord, du får inte ge dig. Jag vet ingen stjärna som du. Snurra och dansa med oss, fast vi är bara blott som du. Du skälver min jord som du själv var ombord, min vän. Natten söker alltid dagen. Du välver min jord sträng på fjorden. Som världskrigen stämmer i anden. Och världsalltet klämmer i handen. Snurra min jord, låt mig följa med dig. Jag är lika värdelös som du. Snurra min jord, du får inte ge dig. Jag vet ingen stjärna som du. Jag lika lite som du vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur det än är, min vän. Natten griper efter dagen.
e virvlar av nätter i jorden. Och hon heter rätten på borden. E brusar från stjärnkatarakten. Vem lånar en ljusstund mot makten? Snurra min jord, låt mig följa med dig. Jag är lika värdelös som du. Snurra min jord, du får inte ge dig. Jag vet ingen stjärna som du. Snurra så följer jag med. Jag vill leva i fred som du. Jag tror på dig jord och jag följer din stjärnas lag. Stjärnarna med natt blir kanske dag.
Bon, donc, on n'a pas fini de t'entendre sur cette antenne. Je suis ravi d'avoir passé ce moment avec toi. J'espère que les auditeurs et auditrices ont pris du plaisir à écouter cette émission. On se retrouvera donc pour une de ces émissions. Et peut-être ne le sais-tu pas, mais lors des entretiens, je demande traditionnellement à l'invité, avec un V au 100, de choisir la chanson avec laquelle nous allons nous quitter.
Ah, de Léo, la poésie.
Merci beaucoup, Daniel.
Merci à vous.
Au plaisir de te
retrouver. Merci à toi, c'est vraiment... Tu m'as fait un peu sortir de moi, mais...
Bon, pas trop trop, ça va quand même. Raisonnablement.
Ah, je pensais pas aller jusque là, mais... Ouais. Non, je suis ravi. Hein. Et si ça sert, oui, si ça peut servir, ça peut...
À bientôt, Daniel, merci beaucoup.
Eh ben, écoute, tu veux voir quelque chose après, non ? C'est fini, là. Hein.
J'ai du savon qui lave les péchés capitaux, un stylo bi qui grave le goût d'un apéro, un soutien-gorge à pile qui ne s'allume qu'aux beaux yeux, un dentifrice habile à blanchir les aveux, un buvard facétieux qui sèche les chagrins, un œil pour lire à deux quand le jour s'est éteint. Un violon capital voilé de chambertin à faire sonner le mal plus fort que le tocsin. Si ça ne va pas, tu peux toujours aller la voir. Tu demanderas la poésie, on t'ouvrira, même si elle n'est pas là. D'ailleurs, elle n'est pas là, mais dans la tête d'un fou ou bien chez des voyous habillés de chagrin qui vont par les chemins chercher leur bon ami, la poésie. J'ai des bas pour boiteuse à faire boiter l'ennui, et des parfums de gueuse à remplir tout Paris, des pendules à marquer le temps d'un beau silence, des lasso à lasser les garces de la chance, des machines à souffler le verre de l'espérance, et des vignes à chanter les messes de la démence, des oiseaux transistors qui chantent sur la neige, garantie plaqué or, plaqué par le solfège. Si ça ne va pas, tu peux toujours allez la voir, tu demanderas la poésie, on t'ouvrira,
même si elle n'est pas là. D'ailleurs, elle n'est pas là, mais dans la tête d'un fou qui se prend pour un hibou. Du cirage blond quand les blés vont blêmir, de la glace à façon pour glacer les soupirs, des lèvres pour baiser les aubes des vêtus quand le givre est passé avec ses doigts pointus. J'ai tant d'azur dans l'âme qu'on n'y voit que du bleu. Quand le rouge m'enflamme, c'est moi qui suis le feu. J'ai la blancheur du cygne à blanchir tout Saint-Cyr, et sur un de mes cygnes on meurt pour le plaisir. Si ça ne va pas, tu peux toujours aller la voir. Tu demanderas la poésie, on t'ouvrira